crois que s'il y a des utopies qui ont un lieu précis et réel.
Parlons France.
Parlons France.
Parlons
France.
Parlons France. Le magazine mensuel de la France, la Fédération des radios associatives du Nord de la France.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le magazine de la Franf. Parlons Franf, numéro 6, le magazine des radios associatives du Nord de la France. Le concept, chaque mois, un invité réagit à des reportages de terrain consacrés à une question de société. Avec nous dans les studios de Campus Lille pour ce sixième numéro, Anaëlle Delepierre, Elisabeth Hanck, RCV Lille, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Elisabeth Hanck, vous êtes coordinatrice de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France, et vous animez avec Anaëlle Delepierre l'émission J'enrage, un dimanche sur deux sur le 99 FM de la radio Campus Vauban. Jean-Pascalini, PFM Arras, bonjour.
Bonjour.
René Lavagne, Radio Campus Lille, bonjour.
Bonjour.
Patricia Bassama, de Radio Campus Lille, bonjour.
Bonjour. Longtemps resté le foyer culturel de l'expression de la virilité, le sport s'est progressivement ouvert aux femmes qui ont su s'arranger des résistances masculines. L'institution sportive reste-t-elle profondément marquée par les effets de la domination masculine? Contribue-t-elle encore à renforcer et perpétuer les normes de genre? Comment s'accommode-t-elle? Ou au contraire, tente-t-elle de lutter contre les stéréotypes? Masculin, féminin, sport, dis-nous quel est ton genre? C'est le thème de ce Parlons Franf du mois de mai. Pour en discuter avec nous, Sonia Jouffre, bonjour.
Bonjour.
Sonia Jouffre, vous êtes responsable de l'antenne régionale Nord-Pas-de-Calais de l'Agence pour l'éducation par le sport depuis plus de deux ans. Vos valeurs, l'audace, l'engagement, le partage, l'innovation et la proximité. Thierry Tribala, bonjour.
Bonjour.
Thierry Tribala, vous êtes athlète, danseur, éducateur, militant. Vous incarnez le parfait exemple de l'homme dans une discipline féminine. Vous êtes en région l'un des précurseurs de l'introduction de la danse dans le cirque. Professeur agrégé de PS, aujourd'hui à la retraite, vous avez reçu en 2014 la Légion d'honneur pour votre riche parcours.
Thierry Tribala, trois questions d'un point de vue historique. La première, peut-on affirmer que le sport a ou a été un lieu de la domination masculine ? Est-ce que cette domination signifie que le sport a été réservé aux hommes et qu'il est le lieu d'éducation à la virilité? Et puis, histoire plus récente, en une quarantaine d'années d'intervention dans l'éducation physique et sportive, est-ce que vous avez vu bouger les lignes et émerger un sport moins marqué par les clichés de genre?
Ça en fait des questions. C'est la danse dans l'Académie de Lille et pas dans le cirque. Je récupère rapidement. Oui, là... Tout dépend de la définition du mot sport et à quel moment on considère que le sport rentre dans la société contemporaine. Pour la majorité des gens, on parlera du sport moderne et donc de la fin du 19e siècle, même si on peut constater la présence de pratiques féminines sur certaines frises dans des villes comme Knossos en Crète, etc., où les femmes pratiquaient déjà des activités avec les hommes. Donc on se positionnera plutôt par rapport à aujourd'hui et ça sera plus simple. Oui, mais je pense que le sport a été fait par les hommes, pour les hommes et pour montrer qu'ils en sont. D'ailleurs, les résistances qu'ils ont pu montrer au début la fin du 19e et début du 20e, quand les femmes ont souhaité pratiquer les activités physiques, a été relativement forte. Il suffit de se souvenir du baron Pierre de Coubertin et de ses positions sur les femmes et l'ouverture des Jeux Olympiques pour les femmes. Concernant l'éducation physique, c'est une question centrale à l'école, puisque les enfants ne choisissent pas avec qui ils sont dans leur classe, et les anciens d'éducation physique font travailler les filles et les garçons ensemble, et c'est leur souci permanent de trouver des pratiques dans lesquelles il y a une égalité qui soit instaurée. Mais ce n'est pas une chose simple, je suppose qu'on aura l'occasion d'y revenir. Par contre, je ne me souviens plus de votre deuxième question.
Ouais, est-ce que la domination masculine dans le sport, c'est simplement le fait qu'il a été réservé aux hommes, ou est-ce que c'est aussi par le fait que c'est un lieu d'éducation à la virilité?
Ça a été d'abord un lieu d'éducation à la virilité. Il suffit encore d'entendre certaines remarques. Souvenons-nous du débat entre Jeannie Langot et Marc Madiot concernant le cyclisme féminin, où Marc Madiot contestait formellement le fait que les filles puissent faire du cyclisme. Ou très récemment, la championne de ski qui demandait à pouvoir concourir avec les hommes et ça lui était strictement refusé. Donc c'est encore, même si ça progresse, ça reste encore chez les hommes une peur. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais il doit y avoir une forme de peur de la part de féminins qui sommeille en eux et dans laquelle les femmes, par leur pratique, risqueraient de réveiller.
Sonia Jouffre, vous êtes responsable de l'APELS, donc je le rappelle, Agence pour l'éducation par le sport. Au regard de ce constat historique, est-ce que l'APELS contribue, au travers des outils éducatifs mis en place, à faire émerger un sport moins stéréotypé? Et si oui, comment éduque-t-on au genre?
Alors, très rapidement, pour resituer un petit peu, qu'est-ce que l'Agence pour l'éducation par le sport? Donc en fait, nous, on est une plateforme nationale avec une antenne régionale ici en Nord-Pas-de-Calais. Une plateforme en fait des acteurs de l'éducation et de l'insertion par le sport. On développe pas en soi nous des projets ou des actions en direction des publics, mais on agit plus en tant qu'un révélateur de bonnes pratiques et notamment des pratiques associatives, mais aussi des pratiques qui sont mises en place par des collectivités locales. Donc c'est vrai que la question de la pratique sportive féminine, c'est une question qui est assez centrale pour nous, même si ce n'est pas un de nos axes prioritaires. Il est vrai qu'on a détecté depuis 18 ans qu'on existe beaucoup d'actions qui sont menées en ce sens-là, et notamment pour favoriser l'insertion sociale des femmes grâce à la pratique sportive, et également amener les femmes à avoir une pratique sportive, ou en tout cas la pratique d'une activité physique de manière plus générale.
Longtemps restée méconnue du grand public, la Coupe du Monde qui s'est déroulée en France l'été dernier a été un vrai tremplin pour le rugby féminin, désormais source d'émancipation. Exemple tout de suite avec Alexandra Pertus, Camille Moncosé, Cyrielle Macquart de l'équipe féminine senior de Lille Métropole Rugby à Villeneuve-d'Ascq qui évolue dans les phases finales du top 8 et a assuré sa qualification à l'heure où je vous parle pour les demi-finales face à Perpignan.
Ce sport, il est rentré au lycée quand je m'ennuyais et que je regardais à l'internat ce qui se passait autour de moi. Il y avait un joli terrain de rugby et ça m'a donné envie d'y aller. Ça m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de partage. Je pense que s'il n'y avait pas ce ballon, on serait quand même soudés. On arrivera à trouver un moyen pour pratiquer ce rugby que j'aime et que beaucoup de monde aime.
J'ai fait beaucoup de judo avant et j'avais envie d'essayer un sport collectif. Mais je voulais y retrouver du combat et cet esprit d'équipe. Et mes profs de sport m'ont conseillé le rugby, donc du coup ben, j'ai commencé comme ça, à leur écoute.
Mais c'était dans ma famille en fait, parce que mes cousins et mes oncles ont tous joué au rugby. Et donc un beau jour j'ai dit oh, ben, moi aussi je vais essayer le rugby, et je m'y suis mise et je suis jamais repartie.
Pour moi, c'est une histoire de caractère. Il y a des filles qui voudront tout donner et s'arracher et qui conviendront au rugby. Et puis d'autres filles qui auront un caractère à plus être gracieux et où la danse irait plus. Et pour les garçons, c'est pareil.
Bon, je pense que naturellement, il y a peut-être que les sports de combat ou les sports de force, les hommes sont peut-être plus disposés à jouer, à faire ces sports, mais après, je pense qu'on peut s'adapter et que tout est ouvert à tout le monde.
La mixité, je sais pas, puisque c'est vrai qu'on joue pas en même temps, on peut pas partager puisque la pratique est quand même assez différente, mais nous on essaye justement que cette mixité ait lieu avec les entraîneurs, avec les entraînements, puisqu'on fait des entraînements communs avec des garçons, souvent les jeunes. C'est très instructif pour eux comme pour nous, donc je pense que c'est enrichissant et je pense que la mixité elle y est, c'est plus une fiction, et je pense que les hommes ont enfin compris que nous on pouvait jouer aussi au rugby, mais différemment sans doute.
En senior, peut-être pas, parce qu'au final, les différences physiques, elles sont quand même importantes. Mais je sais que moi, je jouais avec les garçons jusqu'à mes 15 ans, et ça se passait super bien.
C'était Alexandra Pertus, Camille Moncosé et Cyrielle Macquart de l'équipe féminine senior de Lille Métropole Rugby à Villeneuve-d'Ascq. Question autour des stéréotypes de genre. Thierry Tribala, Sonia Jouffre. Cette conquête par les femmes de sport a priori complètement masculin met à mal les stéréotypes de genre. À l'inverse, est-ce que les hommes investissent suffisamment les sports a priori féminins? Et est-ce que c'est pas finalement les stéréotypes de genre masculins qui ont la peau dure?
Si. Il faut le dire. Autant, je prendrai un exemple en dehors du sport, puisque j'étais inspecteur dans le cadre de l'éducation physique. C'est plus facile pour les professeurs féminins de s'engager pour enseigner des pratiques comme le rugby que pour les profs masculins de s'engager pour enseigner la danse. Donc cette... maintenant, historiquement, les mouvements féministes ont toujours revendiqué la reconnaissance des possibilités, des capacités féminines pour s'engager, comme les hommes, dans les mêmes responsabilités. En France, on a une tendance égalitariste, de ce point de vue-là, dans les mouvements féministes, alors que chez les Américains, c'est plutôt différentialiste. C'est-à-dire on revendique une spécificité féminine, et cette spécificité féminine, on souhaite la conforter. Donc, c'est un peu naturel si en Europe ou en France, par exemple, les femmes ont revendiqué le droit de pratiquer le sport. Mais dès l'instant où elles revendiquent le droit d'entrer dans les activités sportives, il faut qu'elles s'approprient les codes et les conventions qui ont été fabriqués par les hommes, de toute façon. La question pour elles est simple. C'est comment entrer dans des jeux où les conventions ont été construites historiquement par les hommes, tout en préservant leur identité, leur singularité féminine. On est une spécialiste des apparences sur le problème du corps à la faculté des sciences du sport, qui dit que l'un des plus gros problèmes pour certains entraîneurs féminins, c'est d'éviter que les filles se parent d'un certain nombre de codes esthétiques masculins, comme ça, une fille n'a pas de, excusez-moi de la vulgarité, mais elle n'a pas de couilles sous le terrain, ou crachée par terre, etc. Et ces comportements-là, comment les éviter tout en continuant à côté à jouer un sport qui est viril, comme le rugby, par exemple. Donc ça, c'est des vraies questions.
Est-ce que, par rapport à votre expérience, Thierry Tribala, est-ce que c'est pas plus difficile pour les garçons de remettre en question les stéréotypes de genre ?
Oui, parce qu'ils ont eu un confort social qui les a toujours mis dans un rapport de domination et qui, à un moment donné, ne les amène pas à se re-questionner. On le constate autant chez les jeunes que chez les adultes. Je me souviens d'une maman que je ne voyais plus, que son petit garçon qui dansait extrêmement bien. Alors je lui dis, mais pourquoi Roland ne vient plus à la danse, et son père dit, bah, c'est son père, il veut pas, parce qu'il veut pas qu'il devienne homosexuel. Donc j'ai dit, elle a été atterrée de la remarque de son mari, mais c'est quand même des images fortes qui sont trimballées du côté des hommes, considérant que si on fait une pratique féminine, on va se transformer en femme toi-même, quoi. Or, les femmes ne se posent absolument pas cette question quand elles pratiquent une activité masculine.
L'école encourage-t-elle suffisamment les garçons à pratiquer des disciplines sportives genrées féminins ?
Oui. Très sincèrement, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, l'éducation physique a tout mis en œuvre pour que cette question-là soit traitée au cœur de la classe. L'égalité garçons-filles, la possibilité de retomber sur des aménagements réglementaires pour faire en sorte qu'un garçon peut jouer contre une fille. De faire en sorte que les garçons rentrent plus facilement dans la danse ou dans le cirque. C'est travaillé, c'est compliqué, c'est très compliqué. Je vais donner un tout petit exemple. Par exemple, une contre-attaque de handball dans une équipe mixte, puisqu'elle parlait de mixité, la fille arrive avec le ballon devant la zone, elle peut tirer, elle ne tire pas. Elle attend qu'un garçon arrive et elle lui donne la balle. C'est-à-dire que les filles ont aussi intériorisé des comportements du genre, une fille, ça ne tire pas au but, c'est les garçons qui tirent au but. Donc après, les profs travaillent sur ces questions-là. Par exemple, ils vont valoriser des périodes de jeu où les tirs vaudront 2 points si c'est les filles qui tirent ou les garçons 1 point. Enfin, après, c'est contestable aussi sur les modes de fonctionnement parce que ce n'est pas facile de trouver des bons ajustements. Mais cette question-là est traitée. On change les terrains, on change les règlements, on valorise la finesse du jeu plutôt que la puissance, on empêche les garçons de tirer à moins de 6 mètres quand on met une fille dans les buts. Enfin, il y a plein de choses qui sont utilisées avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de facilité, mais cette question est prise en charge.
Même question à Sonia Jouffre au regard des activités de la PELS. Cette conquête par les femmes de sport a priori complètement masculin, mais à mal les stéréotypes de genre. Est-ce que les hommes investissent suffisamment les sports a priori féminins ? Et est-ce que c'est pas finalement les stéréotypes de genre masculin qui ont la peau dure ?
Alors c'est vrai que ça c'est une question malheureusement qu'on aborde très peu et on a tendance plutôt à essayer de réfléchir à comment mieux valoriser la place des femmes dans le sport et quelle offre on peut leur proposer pour que justement il y ait une pratique sportive féminine qui soit beaucoup plus développée. Et c'est vrai qu'on se pose souvent beaucoup moins la question de la masculinisation des sports féminins parce que finalement quand on regarde les chiffres on s'aperçoit que là où le bât blesse c'est sur les questions de la pratique des filles et notamment des les filles dans les quartiers où on a vraiment des taux de pratique qui sont extrêmement bas, notamment chez les adolescentes. Voilà, on parle souvent de décrochage scolaire, mais je crois qu'on peut aussi parler de décrochage sportif auprès de ces jeunes filles. Et donc je crois qu'il y a plus un travail de fond qui est mené, que ce soit par les associations mais aussi par les établissements scolaires, pour favoriser la pratique féminine et justement trouver des modes d'intervention qui facilitent cette pratique.
Les garçons ont, dit-on, des drôles de manières. Dans les vestiaires, ils boivent l'alcool au goulot, poussent des cris d'animaux, s'arrosent de parfum bon marché, ouvrent leur bière avec les pieds. Oh, les garçons dans les... voir dans les vapeurs l'objet du délit prometteur. Oh, les garçons dans les vestiaires. Oh, oh, les garçons dans les vestiaires. Oh, oh, si j'étais un garçon, je saurais ce qu'ils font dans les vestiaires. Oh, oh, si j'étais Paul ou les... Sur des pics à glace, ça donne à la luxure. Oh, les garçons dans les vestiaires. Oh, oh.
Les garçons dans les vestiaires ont l'humeur bien légère. Clarica, à l'instant, dans le magazine Parlons Franf, épisode 6 consacré au sport et au genre. Sonia Jouffre, est-ce que vous avez des exemples d'initiatives qui promeuvent le sport féminin ?
Oui, on en a beaucoup, beaucoup. Alors c'est vrai que, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être que M. Tribala pourra nous éclairer là-dessus, mais le rugby semble être en tout cas un sport collectif qui est beaucoup utilisé pour favoriser la pratique féminine. Et je pense notamment au club de rugby du Pays de Gier, qui a mis, on n'est pas dans la région, là on sort de la région, hein, le Pays de Gier c'est en région Rhône-Alpes, qui a mis en place un projet très intéressant qui s'appelle Femmes au Valley. Et donc le club de rugby intervient notamment dans les écoles et dans les centres sociaux pour faire des initiations au rugby auprès des filles. Et je crois que justement, ce qui est très important sur ce type de projet, c'est de pouvoir vraiment valoriser en fait les femmes. Et c'est vrai que souvent, on a une approche très compétitive du sport, ce qui fait que du coup, comme c'est vrai que physiquement, c'est un fait, les hommes sont plus forts que les femmes.
Génétique.
Voilà. Enfin, a priori en tout cas. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a quand même des championnes, hein, qui sont là. mais c'est toujours plus difficile justement... d'amener les filles et de leur permettre d'avoir confiance dans leur pratique sportive quand on se retrouve déjà d'une part sur des sports collectifs et en plus face à des garçons. Et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir promouvoir aussi un sport qui soit pas que compétitif, mais un sport qui soit aussi convivial. Je crois que c'est aussi un aspect qui est très important et donc que les associations essayent de mettre en place aussi. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre comme projet. Oui, alors après, voilà, il y a des associations qui essayent d'adapter en fait la pratique. C'est important aussi de pouvoir adapter, comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Tribala, de modifier les règles. Voilà, et donc on a vu se développer de nouvelles pratiques sportives dans les clubs. On peut prendre l'exemple de l'aérobox, par exemple. Voilà, on a une association à Tremblay en France, en région Île-de-France, qui il y a déjà plusieurs années a développé cette pratique-là, qui depuis s'est largement répandu et qui permet justement aux femmes d'avoir, enfin de développer la boxe, enfin de s'initier à la boxe d'une autre manière, de pouvoir rentrer dans le club de boxe où c'est un lieu qui est relativement masculin au départ. Et puis c'est aussi un moyen, en utilisant ces nouvelles pratiques adaptées aux femmes, de pouvoir c'est un moyen de pouvoir aussi sensibiliser les hommes à l'intérieur du club au fait que les femmes peuvent aussi accéder à ce type de pratique-là.
Thierry Tribala.
S'il y a des innovations qui se mettent en place, c'est plutôt au local, dans les clubs, dans certaines fédérations. Là où ça résiste le plus, je trouve, c'est à l'international. On pourrait parfaitement concevoir un relais 4x100 natation de filles, de garçons. On l'a vu dans les rencontres nationales. On ne le voit pas au CIO dans le cadre des Jeux Olympiques. On pourrait envisager en athlétisme des concours en duo. Un garçon, une fille en hauteur, on additionne les performances et on compare les deux duos. Ça s'est fait au meeting de Villeneuve-d'Ascq il y a quelques années. Donc ces innovations-là, elles existent avec des possibilités, mais on ne voit pas poindre ça de manière massive. On ne sent pas une volonté d'intégrer ça à l'international. Par contre, on voit, je trouve, des comportements. Alors, moi, quand la Fédération française de boxe, elle propose d'enlever le short et mettre la jupette pour les filles sur le ring. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va faciliter l'intégration des filles dans la pratique de la boxe. Donc, c'est toujours la même question. Quel axe de tension entre préserver la féminité tout en rentrant dans des conventions à caractère masculin sans tomber dans de la caricature ?
On va parler éducation au sport et voir dans quelle mesure elle cherche à lutter contre ces stéréotypes qu'on a commencé à aborder durant cette émission. Elisabeth et Anaël, vous êtes allées au collège Anatole France de Ronchard assister à une série d'entretiens organisés par l'association Coane, précisément autour de la question des femmes dans le sport.
L'association lilloise Coane, qui est dans le cadre de son projet BLOC, Bureau local des observations de la cité, a initié toute cette année un groupe de collégiennes à la vidéo autour de cette thématique. Un projet qui s'inscrit dans l'action menée par Noémie Garcia, leur prof d'EPS, qui a constaté un manque de participation féminine dans les associations sportives de l'établissement. Elle a donc mis en place un cours de sport original réservé aux filles, alliant danse et rugby.
On retrouve Delphine, Coralie et Zoé, respectivement 14 et 12 ans, après l'entretien qu'elles ont mené avec 4 jeunes femmes pratiquant des sports réputés masculins, la boxe et le hockey subaquatique.
Alors attention, qui va faire le cadre, qui va faire le son, qui va faire le
cadre? Moi j'ai la caméra.
Moi personnellement, je vois différemment les femmes et les hommes. Je les distingue plus comme avant. Je les regarde de la même façon. Et certaines interviews m'ont donné envie de faire d'autres sports beaucoup plus masculins que ce que j'aurais voulu faire avant. La boxe, j'avais beaucoup de gens qui ne voulaient pas que j'en fasse parce que c'était violent, mais d'après ce que j'entends, il y a des règles et c'est pas comme si on se battait dans la rue comme ça, donc moi ça m'intéresse.
On fait une interview sur une boxeuse. Qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre? Parce qu'elle doit penser plein de choses, à mon avis, sur la femme.
Alors moi, je pense que la société a fait qu'il y avait des sports féminins et masculins. Personnellement, je pense qu'il y en a, mais très peu, que tout le monde peut pratiquer ce qu'il veut, mais qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont faits pour des genres en particulier.
Bah, maintenant, ça a évolué. Les filles et les garçons pratiquent tous les sports qu'ils veulent, comme on a vu tout à l'heure. Il y a bien des filles qui pratiquent la boxe. On peut faire les sports qui nous plaisent.
Tu as bloqué la boxe pour qu'elle ne recule pas comme ça.
Proposer cette activité-là, c'était aussi un petit peu choqué, et puis c'était aussi prouver qu'on peut tout faire, en fait. Filles, garçons, on peut faire les mêmes activités. Ça me fait du bien à moi de me dire que je vais contribuer à casser un petit peu des stéréotypes et je vais aider un peu tout le monde à réfléchir à la question.
Oula, c'est très très serré ça comme plan. Ouais, voilà, ça suffit.
Je sais très bien ce qui se serait passé si j'avais ouvert le créneau à tout le monde. Il y aurait eu des garçons qui se seraient inscrits et puis la mayonnaise n'aurait peut-être pas forcément pris et j'aurais vu partir des filles. Je me suis dit, on va bien former les filles, on va leur donner confiance dans leur jeu. Et puis si ça se passe bien, si elles sont à l'aise dans leur sport, on invitera des garçons à venir. On pourrait organiser des petits tournois mixtes. Voilà, c'était aussi pour valoriser la fille.
La médiatisation, on n'en a pas parlé de la médiatisation. Ouais. Est-ce qu'on pourrait demander, j'imagine qu'elle fait des combats puisqu'elle fait de la compétition.
En sixième, je me souvenais, ils avaient fait un petit tournoi de foot. Et au plus il y avait de filles, au plus ils leur rajoutaient des points. Comme ça, c'était un moyen d'intégrer les filles dans le foot. Ou dans les sports avec les garçons.
Moi, je pense que ça donne une motivation aux filles de s'intégrer dans l'équipe des garçons pour pouvoir jouer avec eux, alors que si on dit qu'ils sont égaux, ils vont peut-être pas y aller, ils vont se dire je vais rien donner de plus, alors que si jamais ils marquent un but et ils vont avoir des points en plus, ils vont se sentir intégrés et plus appréciés que si jamais on n'aurait donné qu'un seul point, comme pour les garçons.
L'ensemble des rencontres vidéo réalisées par Delphine, Coralie, Zoé et leurs copines donnera lieu prochainement à un DVD, impatiemment attendu par leur professeur Noémie Garcia, qui espère susciter le débat avec cet outil pédagogique réalisé dans des conditions professionnelles grâce aux bons soins de Cohen. Malgré toutes leurs rencontres et les réflexions menées, on constate à les entendre que les collégiennes persistent à penser qu'il y a des sports a priori masculins et féminins. C'est dire si les stéréotypes sont bien ancrés. Thierry Tribala a un petit mot de commentaire sur cette action de l'association Cohen et quelle autre action du même type pourrait-on mettre en place ?
C'est jamais qu'un reportage audio, donc je n'ai pas vu les comportements des enfants, je ne connais pas le projet dans le détail et la manière dont il est mené et les voies d'entrée qui ont été choisies. Là, je vais réagir en tant qu'inspecteur d'éducation nationale. Nous, on a toujours privilégié le fait qu'on entre d'entrée de jeu dans la mixité et qu'on crée les conventions, les cahiers des charges avec les élèves, les manières de construire le respect, la façon de garçon-fille d'entrée de jeu. Parce que partir sur une partition qui amènerait à dire on va d'abord traiter le problème avec les filles, il se posera d'entrée quand on va ramener les garçons. C'est pas parce qu'on aura élevé le niveau de pratique, je dis bien le niveau de pratique physique des filles, que la question ne se posera pas au moment où un garçon il va devoir plaquer une fille plutôt qu'un copain, ou dans le rugby par exemple, ou quand il va devoir donner un coup dans le cadre d'un sport de combat. Donc je résiste un peu sur la question. Maintenant, peut-être que c'est justifié là où les affrontements garçon-fille sont extrêmement forts. On a une tendance au retour en arrière, et ça m'inquiète un peu. C'est-à-dire à dire, on va mettre les filles entre elles, les garçons entre eux, et on verra après quand les choses iront un peu mieux. Je pense pas. Je pense qu'il faut préserver une mixité. Mais bon, je vous dis, moi je m'engage pas parce que je connais pas le projet dans le détail.
Sonia Jouffre, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'intérêt pédagogique de la non-mixité ?
Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il faut plutôt tendre vers plus de mixité. Après, les choses ne sont pas toujours si simples sur le terrain. Et notamment, si on reprend cet exemple-là du collège de Ronchin, pour avoir eu l'occasion d'échanger avec la prof qui mène le projet, c'est vrai qu'il y avait des affrontements qui étaient presque violents, apparemment, sur le terrain entre les filles et les garçons. Et qu'en fait, il y avait la nécessité, d'un point de vue pédagogique pour le professeur, de passer par une pratique purement féminine d'un côté et puis un groupe masculin de l'autre côté. Donc en fait, je crois qu'il y a eu la volonté vraiment de mettre en place ce qu'on appelle une AS, association sportive, une AS spécifique pour les filles sur le rugby. Et apparemment, ça fonctionne puisque depuis, les filles sont de plus en plus nombreuses. Je crois qu'elles sont une vingtaine, voire 25 à participer aux activités rugby, ce qui n'aurait pas du tout été le cas s'il y avait eu des garçons. Ça leur permet de prendre confiance en elle. La prof disait que maintenant elle avait face à elle des jeunes filles qui avaient vraiment mûri, que ce soit par la pratique mais aussi par l'action qu'elle mène avec l'association Cohen sur la vidéo, que c'était devenu des petites guerrières et qu'elles allaient même proposer au mois de juin une animation rugby à l'ensemble des élèves en fait de 5e du collège. Donc elles vont être elles en situation de montrer aux autres ce qu'elles ont appris, et notamment aux garçons. Donc ça va aussi, je crois, aider à casser un peu les stéréotypes. Et puis je pense que derrière, ça amènera, quoi qu'il arrive, à une pratique mixte.
Dans ce cadre-là, je suis.
Alors, on les a entendus, même en mixité, ces collégiennes, elles sont partisanes de la discrimination positive. Elles trouvent que c'est une initiative qui est plutôt positive et qui favorise leur pratique. Sonia Jouffre, elle appelle l'Agence de l'éducation pour le sport. On éduque par l'intermédiaire du sport. Est-ce que c'est intéressant d'aborder la question de la discrimination positive par le biais du sport ?
Là, vous me posez une colle. c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, que oui, en effet... Ça a certaines limites. Après, je pense que c'est important que ce soit pour des publics adolescentes ou même des publics femmes. D'ailleurs, parce que là, on parle beaucoup des enfants et des ados, mais il y a aussi la question des femmes. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir aussi quelquefois avoir une attitude de discrimination positive pour amener vers cette pratique-là. Voilà, enfin, on peut par exemple citer la ville de Lille qui a mis en place il y a quelques années un dispositif qui s'appelle Sport Femmes Famille Adolescente et qui permet juste, enfin, qui a mis en place des créneaux spécifiques pour favoriser la pratique et notamment la pratique des femmes dans les quartiers, des femmes qui culturellement ne seraient pas du tout allées vers une activité physique ou une pratique sportive et qui du coup ont eu cette possibilité-là. Donc je crois que quelquefois, oui, c'est bien de passer par la discrimination positive. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong and I learned how to get along. But now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second, you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with your spy? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down?
Le carton planétaire à Will Survive de Gloria Gaynor dans le magazine Parlons Franf numéro 6, consacré ce mois-ci à la question du sport et du genre. À ce propos, savez-vous, Thierry Tribala, Sonia Jouffre, pourquoi cette chanson est devenue l'hymne national, l'hymne du Mondial 98?
Oh, je l'ai su, mais je m'en souviens plus.
Sonia Jouffre.
Alors là, je suis pas du tout une spécialiste du foot. Faut pas me poser la question.
Lundi, c'était dans le premier titre qu'on a diffusé dans le magazine Franf. C'est une chanson de vestiaire, tout simplement. La féminisation du sport et la remise en cause des stéréotypes de genre amènent à s'interroger. Existe-t-il des alternatives, Jean?
Alors, pour une première contribution au débat, nous avons rencontré Françoise Coulon, qui est professeure de Hatha Yoga à Arras. Nous l'avons interrogée sur la mixité, sur la non-compétition, et nous lui avons demandé si elle considérait le yoga encore comme un sport.
Bien, donc vous vous installez bien en équilibre sur les deux plantes de pied.
Il n'y a pas de niveau, c'est un cours qui est ouvert à tous. Vous allez avoir tous les publics. Il va y avoir des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des femmes enceintes. Chacun va avoir son corps avec ses limites, que ce soit homme ou femme, chaque cas sera différent.
Vous prenez conscience de votre souffle, lent, régulier?
Les personnes viennent pour se sentir bien, elles. C'est non compétitif aussi parce que c'est un sport très doux, non violent.
Vous sentez le léger frottement de l'air à l'intérieur des narines, à l'inspire, à l'expire?
Pour moi, oui. C'est vraiment complètement incompatible. Il n'y a pas de yoga aux Jeux Olympiques.
Doucement, vous joignez les mains sur la poitrine.
Il n'y a pas d'équipe de yoga. C'est une rencontre avec soi-même.
Vous ouvrez les yeux, vous fixez un point devant vous pour garder votre équilibre et vous expirez doucement, tant que c'est confortable.
Très souvent, les hommes préfèrent quelque chose de plus actif. Ils ont envie de se dépenser. Et donc le yoga leur paraît trop calme. Mais de plus en plus, le yoga a tendance à accueillir des hommes de tous âges, peut-être parce que le stress au quotidien, la compétitivité qu'on nous demande d'avoir sans arrêt est de plus en plus pesante.
Puis sur l'inspire, vous montez les mains au-dessus de la tête, doucement, vous écartez bien les coudes.
Dans la tradition indienne, le yoga se pratiquait en ashram de maître à disciple et c'était un enseignement masculin. Ça se passait entre hommes, effectivement.
Vous allongez les mains, vous étirez les bras.
C'est très différent d'un sport pour moi, c'est une opinion personnelle. C'est une discipline qui se fait dans la lenteur, dans la concentration. Le sport est beaucoup plus rapide en fait, on se dépense. En yoga, on réfléchit.
Vous montez sur la pointe des pieds et vous restez quelques instants poumons plats.
Le yoga a cet avantage que c'est aussi une école de la modestie. On accepte ce qu'on ne sait pas faire. pas, on ne le fait pas. Hein. On respecte son corps et le faire par la pensée, c'est quelque part admettre qu'on n'a pas le corps suffisamment encore prêt à faire telle chose et donc on attend, on le fait par la pensée.
Puis sur l'expire, vous ramenez les bras, vous ramenez les talons et vous respirez bien.
Voilà, les questions sont posées, sport ou discipline. La performance et le genre sont-ils inhérents au sport ? Un sport non compétitif est-il encore un sport ? Thierry Tribala et Sonia Jouffre, on vous adresse ces questions. Pour commencer, peut-être Thierry Tribala ?
Oui, le sport, c'est devenu un concept fourre-tout. Il a gagné en extension, comme je le disais précédemment, mais il a perdu en compréhension. Je pense qu'il faut revenir à des choses. Il faut être précis sur cette question-là, sinon on mélange tout. Et quand le médecin vous dira aller faire du sport, vous aurez le yoga ou le marathon. Donc il y a là vraiment un problème. Le sport, c'est d'abord l'affrontement, c'est la domination ou la neutralisation de l'autre, objectivé par une performance ou un résultat dans un processus institutionnalisé qui est la compétition. Là-dessus, il y a des rencontres mensuelles, hebdomadaires, il y a un système d'entraînement, c'est institutionnalisé, les gens regardent leurs résultats dans le journal, etc. C'est une pratique sociale, réglementée, conventionnée, etc. L'activité sportive, c'est quand on se livre à un sport hors institution, non institutionnalisé, pour gagner l'apéro, par exemple, quand on dit bah, celui qui gagne le match de volley, il paye un coup. Ça, c'est l'activité sportive. L'activité physique n'a pas comme dénominateur commun la compétition ou l'affrontement. C'est une pratique physique dont on cherche la dépense énergétique dans un but de bien-être ou de connaissance de soi. Donc je pense qu'une fois qu'on a posé ça, on peut identifier les différentes pratiques. Donc il ne faut pas mettre dans le même sac le football de bas d'étage, dans les cités, le football dans les clubs, la marche ou la randonnée. Ce sont des choses différentes. Alors maintenant, quand on positionne les femmes dans ce registre-là, il faut constater par exemple qu'elles sont minoritaires dans les fédérations sportives et majoritaires dans les fédérations non sportives. Par exemple, à la Fédération française de gymnastique volontaire, c'est 80% de femmes. Pourquoi le yoga, elle l'a dit très précisément, là les hommes ils veulent se dépenser. On est dans des problèmes de genre. C'est-à-dire faire attention à soi, avoir une écoute intérieure de soi et connoter dans la société comme étant un comportement féminin. S'oublier, ne pas avoir mal, se lancer dans l'espace, etc. Et connoter dans la société comme étant masculin. Connoter, j'ai bien dit. C'est-à-dire que c'est une construction sociale. Ce n'est pas un donné biologique. Donc le yoga est une activité physique. Ce n'est pas une activité sportive. Alors pour revenir au sport, est-ce que le dénominateur commun, c'est l'activité physique ? Non, regardez. Dernière émission de Stade 2, les joueurs de poker revendiquent le statut de sport. Les échecs ont le statut de sport. Où est l'activité physique ? L'activité physique doit être, l'intelligence doit être au service de l'activité physique et pas le contraire. À ce moment-là, moi j'adhère sur la définition du mot sport. Sinon, on y mettra le bridge bientôt.
Merci Thierry Tribala pour ces définitions. Sonia Jouffre, si on entend bien ce qu'a dit Thierry Tribala, sport et compétition sont intimement liés. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pensez que c'est imaginable un sport malgré tout non compétitif? Et dans ce cadre-là, les questions de genre, est-ce qu'elles ne sont pas liées aussi à la compétition ?
Alors, c'est vrai qu'il y a différents types de sports, hein, comme l'a très bien précisé M. Tribala. Après, l'activité physique et sportive, ça fait, pour moi, ça fait aussi partie intégrante du sport. Et je crois qu'en effet, pour favoriser la mixité dans les pratiques non compétitives sont en effet plus intéressantes. Tout dépend après de l'objectif qu'on s'est fixé, c'est à quoi va nous servir le sport, en fait. Est-ce qu'on veut en faire un vecteur de lien social ? Est-ce qu'on va en faire justement un outil pour se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, bien avec, avec son environnement? Et donc du coup, c'est vrai que les pratiques, pour ça, les pratiques non compétitives sont sûrement plus intéressantes.
On a vu avec le yoga l'exemple par excellence d'une discipline pratique non compétitive. Retour, si vous le voulez, à la compétition avec le collectif XXY qui en interroge la dimension potentiellement aliénante. Elisabeth, direction l'espace Pasolini de Valenciennes.
Un ring, deux compétitrices qui s'affrontent dans un mélange de GRS et de catch dont Julie sortira vainqueur en choisissant de séduire le jury en jouant précisément sur certains codes de la féminité. Amélie Poiré, la metteuse en scène de Cindy versus Julie, le spectacle qu'on est allé voir, qui a été créé à l'origine dans le cadre du festival L'Entorse, nous explique pourquoi ce choix de deux disciplines, a priori très stéréotypées.
Derrière l'athlète Cindy, metteuse en scène,
Déjà parce que je m'intéresse aux thématiques qui sont liées au genre, on va dire, au pluriel. Et du coup, j'avais envie de travailler sur deux sports, donc a priori un très féminin, effectivement, et un peut-être plus masculin, et que ça se passe sur cette espèce de ring figuré qui est à la fois un espace sacrificiel aussi et un espace de combat. Voilà, travailler sur deux sports qui aussi sont des sports spectaculaires à la base, puisque la GR c'est quand même un sport qui a déjà très haut spectacle. Et le catch, idem, puisque au catch on fait semblant tout le temps de se faire mal, mais c'est jamais pour de vrai en fait. Il y a des choses dans le costume qui sont pas forcément hyper réalistes, et puis au fur et à mesure ça bascule dans le gala, puis dans le cauchemar. Voilà, qui pourrait être le cauchemar de cette gymnaste qui, quelque part, a raté, mais finalement a gagné par nos attributs. Et qu'est-ce qu'elle rêve, hein, de quoi elle rêve vraiment, qu'est-ce qu'elle se souhaite aussi vraiment pour elle-même. Dans le sport, qu'est-ce qu'on sacrifie pour soi-même, qu'est-ce qu'on sacrifie pour faire plaisir aussi à ses parents, à sa mère, au moment de l'adolescence, pour moi c'est vraiment une pièce sur l'adolescence aussi, qu'est-ce qu'on doit tuer de ses parents pour aussi s'affranchir aussi en quelque sorte de tout ça. Peut-être c'est le rapport au sport, peut-être c'est le rapport au genre, peut-être c'est le rapport au fantasme, au cauchemar. Ça fait appel aussi à ce qui est dans notre inconscient, en fait, aussi, à ce qu'on met en place, parfois sans le vouloir, parfois... Voilà, c'est un peu tout ça. L'idée de sport, oui, véhicule l'idée de genre, puisque le sport, je pense que c'est l'endroit qui est encore le plus genré presque au monde, parce que dans les compétitions, il y a toujours un côté femme, un côté homme, c'est jamais les mêmes notations, les femmes sont toujours en dessous, enfin, il y a toujours ce truc-là, je sais pas, ça s'est construit comme ça, le sport, donc ça voudrait dire déconstruire tous les sports. Par contre, peut-être mieux répartir les pratiques, c'est-à-dire que, et mieux, pourquoi le football masculin, c'est le seul qui est diffusé à la télévision en France, en Islande, les matchs de football féminin, ils sont autant visibles que les matchs de football masculin. Donc après, c'est aussi des choix tactiques, politiques, commerciaux qu'on fait par rapport au sport.
Voilà, c'était Amélie Poirier sur la question du genre dans le sport. Amélie Poirier, rencontrée à l'issue d'une représentation de son spectacle Cindy versus Julie le 11 avril dernier. Alors Thierry Tribala, vous parliez justement de construction sociale et du fait que le sport soit intrinsèquement lié à la compétition. D'après Amélie Poirier, le sport est un, sinon le lieu par excellence d'expression de la domination masculine. Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas considérer le sport comme l'espace le plus adéquat pour démontrer que les genres masculins et féminins sont des constructions sociales, dans la mesure où femmes et hommes sont tout à fait capables de pratiquer les mêmes sports?
Oui. Il faut revenir très rapidement, mais je vais très vite, sur la définition du mot genre, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à le considérer ça comme une idéologie ou une théorie. Tous les universitaires vous diront simplement que c'est une catégorie d'analyse pour la bipartition masculin-féminin, et de regarder et d'observer les croyances et les valeurs accordées au féminin et au masculin dans nos sociétés. Donc c'est d'abord une vision constructiviste. Ça se construit, le féminin et le masculin. Donc ça se déconstruit aussi. Et à partir de là, c'est à nous de créer les conditions sociales pour que dans les pratiques, chacun, en fonction de son identité, parce que là aussi, la stricte partition féminin-masculin n'est pas aussi simple que ça. Il y a des femmes qui ont, par exemple, des taux d'hémoglobine masculin qui leur permettent de courir bien plus vite sur le 1500 que n'importe quel homme. J'ai connu et travaillé dans des stages d'athlétisme avec Kratos Vilova, qui était la recordman du monde du 400. Elle avait un corps musculaire d'homme. Or, c'était une femme extrêmement sensible, très gentille, très, très accessible. Et médiatiquement, on la considérait plutôt comme un homme. On va aller dans la rue, on va demander aux gens ce qu'est le catch. Ils vont tous vous répondre. Demandez-leur ce que c'est que la GR, vous allez voir combien vont vous répondre. Pourquoi ? Parce que c'est pas médiatisé, parce que les sports strictement féminins sont plutôt mis de côté. Quand il y a des compétitions féminines comme le cyclisme, alors que les filles sont capables de faire des courses magnifiques, on ne les voit pas à la télévision. Donc c'est aussi un choix social et des médias. Moi, je suis atterré parfois par les réflexions de Nelson Montfort et de Candeloro, qui, au lieu de regarder la vraie performance sportive féminine, nous renvoient sur leur... Ou les cadrages des caméramans dans les compétitions d'athlétisme sur les départs de 400. Enfin, on pourrait démonter tous ces mécanismes-là qui ont tendance à sous-évaluer les pratiques sportives féminines du point de vue de leur engagement dans la performance. Et pas... on a parlé du football des princesses. Moi, on n'a jamais parlé du PSG des Chippendales. Si on fait ça, on va crier au scandale, mais ça fait sourire tout le monde qu'on parle du football des princesses.
Donc dans la mesure où femmes et hommes sont capables de pratiquer les mêmes sports, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que finalement, si la médiatisation et l'institution sportive permettaient cette pratique, favoriser la pratique féminine, voire les pratiques mixtes, même en compétition, est-ce que ce ne serait pas le lieu qui pourrait être le lieu le plus adéquat pour déconstruire ces gens ?
Il y a aussi le milieu de l'entreprise. Bon, maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir quand même, c'est que plus on monte dans les catégories socioprofessionnelles, plus il y a une égalité homme-femme, y compris dans les signes de genre, notamment dans l'entreprise. Plus vous descendez dans les catégories socioprofessionnelles des phases favorisées, moins les femmes pratiquent de sport et plus les stéréotypes sont forts. Donc il y a beaucoup de boulot à faire dans les quartiers, il y a beaucoup de boulot à faire à l'entreprise pour ramener les femmes à sortir des stéréotypes qu'elles ont intériorisés qui les enfermeraient dans un statut a priori de ce qu'elles seraient faites pour la maternité ou pour rester à la maison et pas pour pratiquer des activités physiques et sportives. Là, il y a un boulot social très fort. Et les médias ont un jeu, une responsabilité, comme l'école. Il ne faut pas non plus que les médias déconstruisent tout le boulot que les scolaires ou l'éducation nationale montrent. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure pour la pratique physique du collège, ça concerne tous les enseignants. Parce que quand vous donnez la parole à les filles, ça ne parle pas. Les filles, ça se met avec les garçons au fond de la classe ou sur le côté. Les garçons se mettent ensemble. Il y a plein de mécaniques qu'on ne voit pas parce qu'elles sont insidieuses dans notre société, sur lesquelles il faut combattre. Donc l'école, c'est un lieu privilégié pour le faire. Et le club et les quartiers doivent devenir un lieu privilégié pour le faire. Et heureusement qu'on a les animateurs pour le faire aussi.
Toujours sur la compétition, du coup, quel intérêt des catégories de genre dans des sports comme la pétanque ou les échecs où les différences physiques n'influent pas du tout sur l'issue de la compétition ?
Parce que le dénominateur commun, ce n'est pas l'activité physique, mais bien la compétition.
Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment des différences de genre dans des disciplines qui sont plutôt intellectuelles a priori que physiques ? C'est quoi l'intérêt de garder ces catégories-là ?
Les femmes jouent au bridge, moins au poker. On pourrait se poser la question pourquoi, tiens, par exemple. Il y a des clubs de bridge plutôt à une certaine catégorie d'âge. On trouve plutôt des compétitions de poker avec des hommes qui ont un côté un peu macho. Qu'est-ce qui fait que le poker revendique de rentrer à la jeunesse et sport parce qu'on l'a reconnu aux échecs ? Pour moi, si on veut rester dans une logique et une cohérence globale, le dénominateur commun, c'est comment vous êtes en capacité de piloter la complexité de votre propre coordination motrice pour faire mieux ou aussi bien que l'autre. C'est ça le dénominateur commun. Alors, effectivement, on peut toujours dire qu'il y a des qualités physiques plus importantes chez l'homme que chez la femme. Aujourd'hui, les universitaires considèrent que seule la force est un élément discriminant. Pour le reste...
Question à Sonia Jouffre et toujours vous aussi, Monsieur Tribala. Amélie Poirier, pardon, émet un avis très pessimiste sur la possibilité d'outrepasser ces catégories hommes-femmes dans le sport, en tout cas dans la compétition. Pourtant, dans de nombreux sports, la pratique loisir, voire les temps d'entraînement, hors compétition, donc, sont mixtes. Est-ce qu'on ne pourrait pas émettre l'hypothèse donc, que ces catégories sont surtout liées à la compétition ?
Oui, je pense qu'en effet, c'est la compétition qui fait qu'on a une séparation hommes et femmes importante. Après, pour revenir sur ce qui a pu être dit tout à l'heure, je crois qu'en effet, les médias, ils ont vraiment un rôle très très important à jouer sur cette question de l'image qui est renvoyée sur la pratique sportive des hommes et des femmes, et qu'il y a un gros travail à faire en direction des médias pour qu'ils puissent également contribuer à montrer qu'il y a un autre sport qui existe que le sport compétition, et justement peut-être médiatiser plus la question des sports loisirs ou du sport social. Et il y en a quelques-uns qui commencent à jouer ce rôle. Je pense notamment au quotidien Le Monde avec qui on a un partenariat et avec qui on met justement en avant toutes les semaines une des associations qu'on a pu révéler en fait, et donc qui met en avant justement d'autres types de pratiques sportives que la pratique compétitive.
Alors la France est une fédération de radio associative, nous sommes donc une fédération de médias, c'est notre responsabilité aussi de parler de ces sports non compétitifs.
D'ailleurs, on vous remercie de nous accueillir pour en parler aujourd'hui.
Il L'émission touche à sa fin. Merci Sonia Jouffre, Thierry Tribala pour votre participation à ce 6e numéro du magazine Parlons Franf. À la réalisation de ce numéro 6 de Parlons Franf, Anaëlle Delepierre, Elisabeth Hanck, RCV Lille, animatrice de l'émission J'enrage, un dimanche sur deux sur le 99 FM RCV. Jean Pasqualini, PFM Arras.
Et à la présentation, Patricia Bassama de Radio Campus Lille.
À la technique, René Lavargne, Radio Campus Lille. À la coordination, Bruno Riquet. Le prochain numéro de Parlons Franf sera consacré à la question des médias alternatifs en région. Qui sont-ils? Comment fonctionnent-ils? Que proposent-ils de différent dans le paysage médiatique régional? Réponse début juin dans le numéro 7 de notre magazine. D'ici là, portez-vous bien.